France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Il est un mari infidèle, persuadé que sa femme le trompe. Michel Faux joue et met en scène la jalousie de Guitry au théâtre de la Michaudière. Il sera mon invité à partir de 13h. Et dans la première partie de cette émission, place à la critique culturelle avec deux expositions à voir à Paris en ce moment. La plasticienne noire et queer Micaline Thomas qui investit le Grand Palais et la photographe Marie Kéo qui explore les limites du corps humain et ça c'est au bal. Vous écoutez les midis de culture et j'en ai la chair de poule. On a tous la chair de poule avec le temps qu'il fait, et même nos critiques qui ont même la goutte au nez, visiblement. Bonjour Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur. Sarah Hillermeyer, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
I do believe you are chosen to be an artist. Because we can do anything.
Je crois sincèrement que certains sont prédestinés à devenir artistes, car nous sommes capables de tout.
But I think to be an artist is also a radical act, right?
Mais je pense qu'être artiste est aussi un acte radical, une façon d'aller à contre-courant de la normalité.
You know, you're taking a big risk of having your ideas executed and having people listen and
vous prenez un gros risque en mettant vos idées en pratique et en demandant aux gens de vous écouter et de vous aider à aller au bout de votre projet, que ce soit dans des musées ou dans des expositions.
L'artiste Micaline Thomas, All About Love, c'est le titre de son exposition au Grand Palais à Paris, un titre qui fait directement référence à un ouvrage de la célèbre afro-féministe américaine Bell Hooks, qui croyait au pouvoir transformateur de l'amour. Ses amours pour Micaline Thomas s'incarnent dans ses amis IES, ses amantes, sa mère, ses idoles féminines. Artiste pluridisciplinaire noire et queer, elle cherche depuis toujours à interroger la place du corps des femmes noires dans l'histoire de l'art et surtout le regard eurocentré qui leur est réservé. On commence par un avis rapide, Philippe Azoury.
Oui, l'expo s'appelle All About Love. Moi, je pense que j'aurais aimé cette expo. J'ai quand même l'impression d'avoir un audio guide devant mes yeux qui essayait de m'expliquer absolument ce que je voyais et ce qui sautait aux yeux. C'est des fois un peu embêtant.
Sarah Hillermeyer.
C'est un travail dont on comprend les intentions, hein, qui sont de toute évidence de l'ordre de l'empowerment, mais pour lequel moi j'ai des réserves. Ou du moins des interrogations, parce que je me demande dans quelle mesure l'imagerie vintage purement positive qu'elle développe du vécu noir est toujours, enfin, est pertinente et n'occulte pas des réalités plus complexes. Et puis d'autre part, je me demande si, contrairement à ce qu'elle dit, Micaline Thomas n'inscrit pas la célébration des femmes noires qu'elle propose à l'intérieur d'un cadre et d'un système de valeurs blancs, là où le Black is beautiful dont elle se revendique cherchait au contraire à émanciper les Noirs américains du regard blanc et de ses normes.
Alors Philippe Azoury, est-ce qu'on peut commencer peut-être par décrire un peu ce qu'on peut voir au Grand Palais?
On y voit beaucoup des réinterprétations. Elle voudrait qu'on dise des subversions, mais on y voit beaucoup des réinterprétations. Des réinterprétations de tableaux classiques, les Odalisques, l'Olympia de Manet, le Déjeuner sur l'herbe de Manet. D'ailleurs, enfin, Sarah en parlait, mais c'est quand même très très troublant combien que Manet soit un grand peintre problématique, aujourd'hui on en a tous conscience, que Micaline Thomas depuis quoi, 15 ans, 20 ans, Sarah
Je sais plus exactement, ouais,
années 90, on va dire même peut-être ouais, 20 ans, enfin soyons sur 20 ans, continue de tourner autour de cette obsession de la peinture classique du 19e siècle, en particulier la figure de Manet, pour la réinterpréter effectivement sous ce que l'on a entendu et qu'on a résumé de façon à la fois rapide, mais il y a guère plus à dire, c'est-à-dire vraiment remplacer un corps blanc par un corps femme noire, ou les corps qui étaient dénudés, de pouvoir en fait les dénuder tous, mais dans des coordonnées qui sont pop, qui relève d'un mélange de matériaux qui pourrait être très 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 intéressant, et qui est même très intéressant, sans doute. Il y a du strass, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça, il faut l'accepter.
Pourquoi c'est étonnant, le strass?
Non, c'est toujours parce que c'est un matériau un peu bling, comme ouais. Ça, enfin, pour lequel on a assez peu, enfin, on jette assez rarement un regard sérieux sur le strass, alors que finalement, ça produit ici quelque chose qui est assez intéressant, en plus que c'est mélangé aussi à de la photo, à de l'acrylique. Enfin, il y a un souci de ne pas mettre forcément du strass partout, et de pouvoir le mettre à des endroits qui font que, bon, en tout cas, ces tableaux sont des alliages, des corps composites, mais retravaillés travaillant des figures qui sont des figures ou des modèles, enfin ceux d'une peinture qui effectivement était sexiste, était coloniale, et aujourd'hui dont on comprend bien qu'il est nécessaire et qu'il est absolument utile et bien vu de devoir les relire, et que l'histoire de l'art dans son ensemble soit à délivrer. Je crois que tout le monde en a conscience depuis 20 ans. Ce qui est plus problématique, c'est que Micheline Thomas, donc, d'une certaine manière, ne propose que ça, et je ne sais pas si aujourd'hui, pour moi, c'est suffisant. Je ne sais pas si, comme disait Sarah, enfin, s'il englobait sous le simple mot-clé, et des mots-clés, il n'y a quasiment que ça dans l'expo, ça va de aimer à résister. Enfin, en tout cas, l'englober sous des mots-clés autour de l'amour ou d'un corps toujours positif ne masque pas finalement assez peu de conscience de ce qu'est d'une histoire politique de ce corps noir, et surtout, alors là, je ne sais pas si c'est un simple crime dû à la scénographie, ou si cette scénographie est concertée, mais quand même toute l'exposition est créée à partir d'un décorum. On recrée des salons qui sont très très chics, très vintage, très années 70, un peu comment s'appelait le film de Tarantino sur Jackie Brown autour de Pam Grier, dont on voit bien que finalement le mot clé c'est décoratif, et c'est plus du tout un mot clé qui va avec la subversion, la décoration.
Sarah Ellermeyer. Oui, je rejoins totalement ce que dit Philippe. Je reviendrai sur la question de la réinterprétation des icônes de l'art occidental, mais comme je disais, j'ai également des réserves, et ça tient effectivement au vocabulaire qu'elle emploie. Donc, pour la plupart du temps, ce sont des représentations d'intérieur très colorées, avec des motifs bariolés, panthères, zébrés,
beige,
fleuris, voilà, qui évoquent évidemment les années 60, 70, à l'intérieur desquelles on trouve des femmes noires. Plus ou moins dévêtues, à l'anguille, aux coupes afro, qui nous regardent d'ailleurs ou pas, le tout agrémenté effectivement de strass et de paillettes. Donc d'une certaine manière, on est là en accord avec le Black is Beautiful, puisque il y a des caractéristiques du corps noir qui sont affirmées et pas dissimulées. Je pense en particulier aux cheveux qui sont pas défrisés, hein, qui sont pas lissés, qui sont donc afro, et aussi à ces intérieurs bariolés dont Micheline Thomas dit que en fait, ils sont fréquents chez les Noirs américains. Donc ça serait une manière de valoriser une culture comme ça noire américaine, qu'elle présente d'ailleurs aussi sous forme d'installation, comme le disait Philippe, mais d'installation de salons finalement très bourgeois, on pourrait se dire aussi. Peut-être que ça concerne qu'une catégorie de la population noire américaine. Et là, il y a quelque chose, en tout cas, de délibérément vintage, qui, à mon avis, justement, peut interroger, parce qu'on a affaire, il me semble, à l'évocation d'un passé qui est un peu romantisé ou fétichisé, celui des années 60 et 70. Et là où ça serait peut-être plus intéressant de l'interroger. Et puis d'autre part, effectivement, cette manière de valoriser une identité noire par des images purement positives, eh bien, peut-être que ça occulte en fait des expériences plus complexes et difficiles. Et surtout, ça a fini par produire des images, me semble-t-il, parfaitement consommables, digestes, qui sont pas du tout dérangeantes, en fait, qui s'accordent avec l'ordre établi. En l'occurrence, l'ordre établi auquel je pense, c'est celui des démocraties libérales, avec leur politique d'inclusivité, qui aime à affirmer leur ouverture sur la diversité culturelle et ethnique, pour mieux, je dirais, dissimuler ou escamoter en fait des rapports de domination, en particulier de classe. Alors je dis pas que Micheline Thomas intentionnellement joue ce jeu-là, mais on peut quand même on peut considérer que ça en est de parfaites icônes, quoi.
Vous vouliez revenir sur la réinterprétation des icônes occidentales.
Oui, parce que justement je disais que si j'ai des réserves pour Micheline Thomas, c'est aussi parce que je crois que sa célébration des femmes noires, elle l'inscrit finalement à l'intérieur d'un cadre et d'un regard qui est blanc et masculin, comme le disait Philippe. C'est le cas justement de ces tableaux qui reprennent des icônes de l'art occidental, comme donc l'Odalisque d'Ingres ou le Déjeuner sur l'herbe de Manet, dont les femmes au teint pâle sont remplacées par des femmes à la peau noire. Mais c'est aussi le cas d'une série de collages ou de deux séries de collages pour lesquelles elle reprend des revues érotiques des années 70 qui rejouent en fait des stéréotypes de la femme noire, sexuelle et sauvage. C'est aussi le cas d'ailleurs d'une série de peintures qu'elle a intitulée Lutteuse, qui montre des femmes noires vêtues de combinaisons panthères, zébrées, dans des positions pour le moins ambiguës, je dirais SM, hein, à la fois violentes et sexualisées. Et ici, à nouveau, moi, je me demande si c'est véritablement émancipateur que de rejouer des stéréotypes sexuels et exotiques et d'intégrer des femmes noires, effectivement, dans des tableaux comme ceux d'Ingres et de Manet, qui sont aujourd'hui, on le sait très bien, critiqués parce qu'ils réduiraient les femmes au statut d'objet, offert au regard masculin, ce qui revient, donc, finalement, à proposer le même statut aux femmes noires. Statut qui, de toute façon, enfin, je veux dire, qui était déjà le leur et qui est peut-être encore le leur, à savoir d'être réduit à des corps, objets sexualisés. Alors, on pourrait toujours nous rétorquer à moi et Philippe que c'est là, comment dire, une logique d'empowerment.
Oui, le retournement du stigmate.
Voilà, le retournement du stigmate, qu'il s'agit d'affirmer comme positif, en fait, ce qui est considéré comme négatif dans une culture dominante. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que, en fait, les normes blanches ne sont pas dépassées du tout dans ce travail. Qu'elles restent, en fait, l'étalon, le cadre à l'intérieur duquel Thomas regarde et valorise les femmes noires.
Philippe Azoury.
Moi, je suis très content que Sarah mentionne cette série qui est à l'étage de montage qu'elle fait à partir d'une revue érotique, qui était une revue érotique française, d'ailleurs, coloniale, à n'en plus pouvoir, autour donc du corps nu noir féminin. Et sauf que quand je vois les montages qu'elle en fait, je ne perçois pas la différence. Et je suis très embarrassé. Et finalement, pas plus que ça non plus, si ce n'est dans une forme de positivisme et de revendication, lorsqu'elle reprend le Déjeuner sur l'herbe ou l'Olympia ou les Odalisques. Et c'est là où c'est embêtant, c'est-à-dire qu'effectivement, la beauté, le positif, la joie, le strass, le glamour, reprendre l'insulte à son avantage, sont des mécanismes qu'on connaît. Ça fait aussi 25 ans qu'elle travaille, 20 ans qu'elle travaille. Il y a 20 ans, c'était beaucoup moins facile. Aujourd'hui, on a un peu quand même tendance à... Non, mais Sarah disait un mot, pour le coup, c'est pas un mot-clé. Si ça avait été un mot-clé, on voit pas du tout, elle aurait pu le mettre dans l'exposition, mais qui est le mot expérience. Enfin, je ne sens pas, je n'entends pas, je ne perçois pas l'expérience. Et par contre, je vois quelque chose qui est du désir d'appartenir. C'est très embêtant de devoir dire ça, mais j'entends aussi chez Sarah le même ennui. On est mis dans une position où j'ai besoin de dire, toi, l'homme blanc de 50 ans, de droite. Non, en fait, je suis complètement... Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'elle défend et en même temps, je vois dans son désir permanent de dire là, attention, je fais un travail militant, je vois quand même une publicité autour de la militance. Et c'est là où en fait, je ne vois pas de contre-proposition suffisamment pour que ça puisse me sortir de ça, je ne vois pas de défiguration. Et c'est pour ça que j'ai employé le mot remix, finalement, plus que le mot de subversion lorsqu'elle reprend les tableaux. C'est que malgré tout, dans le remix, il y a une forme de tendresse ou de nostalgie malgré tout envers la forme originelle qui n'est pas de l'ordre de la défiguration du tout. Et bon, pour prendre vraiment un exemple canonique, puisqu'on est au Grand Palais et qu'on reste dans des trucs comme ça, mais on voyait avec Basquiat la proposition d'un art quand même différent qui se sort du canon dans lequel l'art occidental blanc des siècles passés nous avait enfermé. Là, je vois des reprises.
Oui, Sarah Hilarmé, un dernier mot.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense à un autre artiste en regardant le travail de Micheline Thomas, c'est Kinaid Wiley, qui est aussi un artiste nord-américain, qui procède un peu, son travail relève un peu de la même logique. C'est-à-dire qu'il revisite l'histoire de l'art pour y introduire des figures noires qui en ont été exclues ou qui ont seulement été représentées comme dans des rôles subalternes. Donc, par exemple, il a repris une peinture de Jacques-Louis David, c'est Napoléon menant l'armée à travers les Alpes, en remplaçant donc Napoléon par la figure d'un jeune homme noir, altier et conquérant. Donc on pourrait dire là c'est une forme de revalorisation, mais revalorisation selon des codes du pouvoir et de la puissance qui sont ceux-là même en fait qui oppressent et dominent certaines parties de la population, ce qui revient en fait à inverser les positions, à prendre la place dominante dans une hiérarchie, dans un système de valeurs qui sont maintenues intactes en fait. Donc là où il faudrait peut-être au contraire les renverser.
Micheline Thomas, All About Love, c'est jusqu'au 5 avril prochain à la Galerie 7-2 du Grand Palais. Et le catholique, le catalogue est disponible chez The Hayward Gallery Publishing.
Oh, son.
It's just a little cocktail of my own mix. Sort of eye-opener.
You a doctor?
My name is Clemens. I'm the chief medical officer here.
Here.
Fury 161.
Vous avez peut-être reconnu un extrait d'Alien 3 réalisé par David Fincher où les détenus vivent sur la planète Fury. C'est à ce film que l'artiste française Marie Kéo a emprunté le titre de son exposition Fury. Donc, c'est au BAL à Paris. En 2023, Marie Kéo recevait le prix de la jeune création décerné par le BAL et la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Une dotation de 20 000 euros et un accompagnement qui ont abouti 2 ans plus tard à ce projet photographique et plastique qui explore les états limites, ces moments
de bascule entre la vie, l'accident, voire la mort. Elle a travaillé avec des apprentis cascadeurs, professionnels de la prise de risque, mais pas seulement, pour créer des clichés à la frontière du documentaire et de la fiction. On commence par quelques mots d'abord, Sarah Hilmeyer.
Alors moi, c'est un travail qui me met très mal à l'aise parce qu'à mon avis, ce que fait Marie Keogh, c'est moins interroger que reconduire en fait une pulsion, une jouissance morbide qui consiste à s'anéantir soi-même, à abolir sa propre conscience, je dirais, dans l'intensité d'un passage à l'acte, hein, qui peut revenir à se donner la mort. C'est-à-dire que plutôt que de saisir en fait les mécanismes d'une telle pulsion et peut-être de la comprendre comme un symptôme d'époque, elle en fait un invariant humain relié à des forces telluriques souterraines, donc mystérieuses et fascinantes. Alors je dirais que ça se veut subversif, mais je trouve ça plutôt en réalité dépolitisant. Voilà.
Philippe Azoulay.
J'en ai vu un peu inverse, déjà inverse par rapport à ce que vient de dire Sarah, inverse à, par rapport à Micheline Thomas dont on vient de parler. C'est-à-dire que là, je vois d'abord une autre virulence. Moi, je suis assez effectivement, j'entends ce que dit Sarah, je suis assez attiré, quand même fasciné par un certain point qu'elle vient toucher, et je n'y vois pas un désir, disons, on va dire, à tel endroit, de subversion ou de provocation, mais j'y vois quelque chose qui est assez rare, finalement, et qui est l'antithèse de ce qu'on a eu avec Micheline Thomas, c'est-à-dire ne pas savoir ce que l'on voit. Je pense que j'ai adoré cette exposition sans comprendre une seconde. Et c'est peut-être un problème. avec Sarah. Peut-être que Sarah a mieux vu que moi, mais je sais pas. En tout cas, sans pouvoir désigner. C'est pas l'histoire de ne pas comprendre. J'ai ressenti des choses que je ne pouvais pas désigner. Et ce qui en photographie est quand même, cette part obscure, cette part de non-désignation, cette part de non-slogan précisément, je trouve laisse un champ absolu. Et la scénographie m'a aussi énormément intéressé. Non.
Alors Sarah Hilmeyer, pareil en fait. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que une fois que j'ai dit ce que j'ai dit, ça montre pas du tout.
Alors,
ce qu'on
voit, donc, en fait, c'est des photographies plutôt de grand format, en noir et blanc, ou en couleur artificielle, qui isolent en fait des visages avec des pupilles dilatées, des regards renversés comme extatiques, ou des fragments de corps. En feu ou enduit de gel unifuge. Et donc ces photographies, elles sont imprimées sur des plaques d'aluminium intégrées à des caissons lumineux ou à des volumes qui sont placés au sol ou contre les murs, ce qui permet en fait de spatialiser ces photographies et de construire une installation immersive qui est étonnamment d'ailleurs silencieuse, parce que là on pourrait s'attendre à du bruit et de la fureur. On est au contraire baigné dans une sorte de monde subaquatique ou souterrain, duquel émergent donc des figures isolées de tout contexte, et qui ne manquent pas effectivement d'évoquer, de se confondre avec des images que l'on a déjà vues, de personnes qui se suicident, de personnes qui subissent des violences. Et ce sont des images qu'elle peut mêler dans des vidéos, il y en a deux dans l'exposition, à des archives, par exemple, de volcans en éruption, de détonations atomiques, de réactions nucléaires, on ne sait pas trop. Et justement, moi, contrairement à Philippe, cette confusion qu'elle maintient délibérément me semble être un problème, puisque là où dans nos souvenirs on a affaire à des situations politiques très précises, comme par exemple les suicides liés au procès France Télécom ou aux attentats des Twin Towers, elle nous montre des images qui fonctionnent justement du fait de leur décontextualisation et de leur rapprochement avec des phénomènes naturels, comme des icônes en fait de forces souterraines, intemporelles, vis-à-vis desquelles on devrait avoir un rapport fasciné, être sidéré. Or, à mon avis, rejouer aujourd'hui la fascination pour la mort, pour la catastrophe, par les temps qui courent, ça me semble pas très émancipateur, voire un peu même, je dirais, réactionnaire, en fait, mais petit bourgeois. Pourquoi ? Parce que finalement, on préfère souhaiter la fin de tout, hein, plutôt que d'imaginer autre chose, ce qui est en fait ni plus ni moins qu'un aveu d'impuissance, voire une jouissance de l'impuissance, qui me semble peut-être peu opportune en art aujourd'hui.
Philippe Azoulay.
Non, j'ai écouté Sarah avec beaucoup d'intérêt. J'entends cette part de la critique. C'est très différent la façon dont j'ai vécu ou traversé cette exposition. Mais je pense que c'est propre à l'expo de susciter justement des lectures qui sont solitaires, en tout cas singulières ou uniques. Je pense que Marie Keogh travaille sur trois registres à la fois. Il y a d'abord ce que, bon, en même temps, on prend un gros plan de visage. Il y en a un très 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 beau, comme ça, un très grand portrait d'une femme qui a les yeux à peu près révulsés. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en montée de drogue? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sous un choc traumatique? Est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'un effort physique, puisque Marie Kéo travaille à la fois, enfin parmi les sources en tout cas de ces images-là, c'est mentionné sur le seul cartel qui est dans l'exposition. Elle travaille à la fois sur les écoles de cascadeurs, mais également les entraînements de sportifs à haut niveau.
Donc ça peut être d'apnéiste.
Donc ça peut être quelqu'un qui est par exemple une nageuse qui vient de sortir de là et qui est saisie en gros plan. Ça, j'en sais rien. En tout cas, il y a ce visage. Quand moi je vois ce visage, j'y amène une part de mon expérience, une part de mon imagination, une part de mon fantasme aussi. Et ça peut être des fantasmes effectivement de pulsions de mort à des endroits, peut-être à interroger. Ça, je l'entends complètement. Il y a la façon dont il y a ce que moi j'y amène, il y a la façon dont Marie Kéo les met en scène, donc dans cette ambiguïté, dans cette multiplicité des discours. Et puis il y a la réalité de, par exemple, de ces gens-là, notamment, je pense, quand il s'agit de cascadeurs, sont des gens qui sont dans un simulacre, c'est-à-dire qu'ils nous proposent, moi j'amène par exemple mon souvenir ou mon expérience que je peux avoir ou de l'extase ou de la stance, eux travaillent à produire une fausse extase, une fausse stance ou un faux danger, mais en tout cas à nous en donner un semblant ou un mensonge ou une fiction. Et c'est pour ça, parce qu'on est toujours comme ça sur ces trois, comme ça, ma vision, la vision de la photographe et le savoir-faire de la personne qui l'amène, qui fait qu'effectivement on est complètement, on est déstabilisé. Et c'est repris d'une certaine façon par la scénographie. Ce qui est troublant, parce que par exemple, moi, je peux conseiller qu'on achète le catalogue en plus de l'expo. D'abord, il est pas très onéreux pour une fois, c'est 30 balles. Il est beaucoup plus généreux, au sens où il y a beaucoup plus de photographies, il y a beaucoup plus également d'images d'archives qu'elle reprend, enfin, de ce qui s'appelle ces archives, ce qui vient la nourrir. Mais en tout cas, bon, on y voit une forme de récit. L'exposition est beaucoup plus resserrée, c'est très intéressant, parce qu'en général, les jeunes photographes à qui on propose une exposition au bal ont tendance à en mettre trop. Là, on en met très peu, mais avec des photos qui sont dans l'espace. Les photos ou les installations ou les caissons dont parlait Sarah sont placés à tels endroits que finalement on voit très très rarement une photo toute seule pour elle-même. Les images sont reliées les unes aux autres, font friction, font contact les unes aux autres. Il y a comme un sort de montage des attractions, comme disait Eisenstein, qui crée des séquences qui sont troublantes, où ce qu'on croit savoir d'une image vient s'annuler au contact de notre image ou vient prendre un autre sens si on se déplace. Et là, je trouve qu'on est dans une expo qui est incroyablement riche, parce qu'elle montre que une image ne peut pas mentir tellement elle a de vérité en elle.
Sarah est la meilleure.
Alors oui, maintenant, mais moi je suis malheureusement toujours pas d'accord. Hein,
c'est-à-dire que
c'est-à-dire que je parlais de confusion qu'elle entretient délibérément, et ça tient effectivement aussi à la nature même de ses photographies, puisque ce sont des photographies ambiguës qui documentent en fait des fictions. En l'occurrence, donc des cascadeurs qui ne se donnent pas, qui sont pas réellement en train de se donner la mort. Mais cette confusion, le problème, c'est que contrairement à ce qu'on pense, Philippe, moi je pense qu'on peut se demander quel est son intérêt, puisque à mon avis, elle n'apporte rien, aucune intelligence, aucun éclairage quant à ce qui est montré. Moi, j'ai pensé, en regardant ce travail, à un réalisateur qui s'appelle Peter Watkins, qui jouait sur une ambivalence délibérément entre documentaire et fiction, mais pour dire quelque chose du présent, quelque chose qui serait à l'œuvre sans qu'on le voie, ou qui pourrait advenir. Je pense en particulier à Punishment Park, qui montre de jeunes gens dissidents placés dans un camp de redressement, exécutés par des forces policières, ce qui pointe quelque chose qui est en germe, justement, dans les démocraties libérales, et qui existe déjà pour une partie de la population, à savoir un potentiel autoritaire, voire dictatorial. Or, on n'a rien de tel, en fait, avec Marie Kéo, qui maintient le brouillard pour le brouillard dans une sorte de flou artistique, qui en plus rejoue dans ses vidéos des modes de vision qui sont ceux des applications comme TikTok et Tumblr, qui font défiler toutes sortes d'images à toute vitesse, toutes mises sur le même plan, quelle qu'en soit la nature, et qui produisent en fait une forme, je dirais, d'indifférence et de non-sens par saturation d'images. Et pour revenir sur ce que disait Philippe sur le montage des images, un des modèles de Marie Kéo, c'est un historien d'art qui s'appelle Abby Warburg, qui produisait ce qu'on peut appeler une connaissance par montage, c'est-à-dire par rapprochement d'images hétéroclites issues de différentes périodes, différentes cultures, pour faire saillir en fait des invariants. Hein. Mais le problème, c'est que chez Marie Kéo, moi, à mon avis, le montage qu'elle produise ne produise pas une connaissance, mais une confusion qui consiste à ramener des phénomènes humains sur des phénomènes naturels, des éruptions volcaniques, des tempêtes, ce qui justement est parfaitement dépolitisant. En fait, ça rend ces choses-là inoffensives.
Je suis d'accord sur Watkins, parce que c'est trop long, parce qu'en fait, j'ai vu l'exposition, et là, trois jours avant, je présentais le Punishment Park dans un cinéma à Genève, comme quoi ça, en tout cas, ça faisait sens, en tout cas, pour moi. Je suis pas d'accord sur la dépolitisation. En fait, je pense que ça travaille différemment sur ce qu'étaient les invariants d'Abby Warburg à la fin. Je pense pas que ce soit des invariants que Marie Keogh cherche à déterrer, ou à creuser, ou à faire surgir. Je pense qu'elle a besoin de... Elle parie sur nous, elle parie sur l'intelligence ou l'expérience du spectateur. Parce que là, le mot d'expérience qui me manquait dans la précédente expo, là, je le sens très fort. Et elle en a besoin, parce que je pense qu'au fond, ce qui lui tient d'utopie politique, c'est l'idée qu'on puisse faire une nouvelle communauté, une communauté qui vient, quoi, comme disait Blanchot. Et qu'à partir de là, ça ne peut marcher qu'à partir de trois intelligences à la fois, c'est-à-dire celle du modèle, celle de la photographe et celle de la spectatrice, du spectateur, des visiteurs. C'est nous-mêmes, on vient compléter ou décompléter, bon, dans le cas de Sarah, c'est plutôt décompléter, l'exposition en lui amenant notre désir, notre fantasme d'une nouvelle communauté. Mmh. Et là surgit quelque chose qui peut être très intéressant. Mais c'est vrai que si on le remet dans une idée purement, dire bon, on est dans des demolition rooms, dans des choses qui sont une sorte de nihilisme un peu postmoderne. Sarah disait petit bourgeois. Je vois bien qu'effectivement là on s'arrête et on est bloqué. Quand on vient dans le plaisir absolu de dire je ne reconnais pas ce que je vois, mais donc je vais devoir y mettre beaucoup de moi-même. Et à partir de là, je fais partie de l'exposition et on en fait à peu près tous partie avec nos vérités, avec nos mensonges. Là, on arrive à quelque chose qui peut être très très émouvant. Moi, pour moi, c'est une des plus belles expos de l'année. Donc du coup, je suis un peu...
Ben on va rester sur votre impression. Alors, Philippe Azoury, Furie de Marie Keogh, l'exposition se tient au bal, c'est jusqu'au 8 février 2026 à Paris évidemment, et le catalogue dont vous parliez est en coédition Romain Publications et le bal, et au prix effectivement de 29 €, Sarah.
Et je crois pas me tromper, mais je crois que le bal est fermé pour jusqu'au tout début janvier.
Ah, j'aurais peut-être dû vérifier ça,
voilà,
effectivement.
Mais je crois, hein, venez vérifier, mais si vous partez cet après-midi, peut-être passez un coup de fil d'abord.
merci. Merci Sarah Hilar-Meyer, Philippe Azoury, à très très bientôt. Évidemment, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée. Toutes les infos, toutes les références sont sur la page des Midi de Culture.